session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 1er juillet 96, deuxième conférence.
Oui, vous pouvez vous mettre là, parce que regardant.
Première question, en quoi la distinction divin-incorruptible et corruptible est-elle dépassée par l'être ?
Oui, parce que il y a des êtres corruptibles que j'expérimente moi-même. La mort d'un ami. Bon, donc il y a l'expérience des êtres corruptibles. Je ne peux pas le nier. C'est l'expérience de tous les jours. Et quand on commence à vieillir, on repasse dans des lieux qu'on a vus 10 ans avant. Et on voit que ça a changé. Il y a des tuiles de tomber. Les choses s'usent, expérience, et on découvre qu'il doit exister un être premier, lui, qui ne s'use pas. Donc, au-delà de divin et corruptible, il y a la réalité qui existe.
Pourriez-vous revenir sur votre affirmation de ce matin ? C'est à cause d'a priori affectifs qu'on refuse l'existence de Dieu. Qu'entendez-vous par affectif ?
Ça irait très loin. Mais si on est très attentif, dans le raisonnement de toutes les idéologies athées, on voit qu'il y a une erreur logique. Or, l'affectivité, je prends l'affectivité passionnelle, l'affectivité spirituelle, c'est pour ça que je dis affectif, c'est le côté, vous voyez, de l'amour passionnel et spirituel. Or, presque toujours, quand l'affectivité est très forte, il y a un saut merveilleux au-dessus de la logique. Vous voyez le raisonnement de Nietzsche. Nietzsche est intelligent quand même. C'est évident qu'il est intelligent. Il n'est pas bête, il est malin. Beaucoup plus que Sartre. Moi, je crois. Sartre est aussi un artiste. Le théâtre de Sartre n'est pas si mal. Mais c'est quand même pas la force de Nietzsche. Alors, quand Sartre dit « Si Dieu existe, il est créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. » C'est ça, c'est tout à fait normal comme raisonnement. Est-ce que c'est pas le raisonnement de quelqu'un qui est aveuglé sur un problème ? Il est aveuglé sur ce problème de Dieu, il tremble tout de suite. Et son intelligence n'a plus la même force et la même acuité. Et vous relevez ça constamment. Chaque fois que Nietzsche parle de Dieu, il y a un tremblement de terre. Et d'intelligence. C'est ça que je veux dire. Et alors là, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais ce matin. Ce savant, un vrai savant, qui discutait tout le temps sur le problème de Dieu. Bien, il s'était marié avec une catholique. Et j'ai vu ses fils qui suivaient certains cours sur saint Thomas au jeu d'année. Ils étaient tous très matheux. Ils aimaient Thomas d'Aquin. Ils étaient tous baptisés. Et lui-même disait, c'est sans doute parce que dans ma jeunesse, oui, l'affectivité ancienne et le refus, ça m'a beaucoup frappé. Ça arrive constamment. Je pourrais vous citer, mais ce serait intéressant du reste. Si j'avais vu ça, j'aurais cité tous les aveux que j'avais reçus comme ça. Comme maintenant ils sont morts, j'aurais pu faire paraître un livre très intéressant sur les aveux de grands médecins de notre temps, ou d'un grand savant de notre temps. Mono. Ben, Mono. On me l'a dit, Madame Monod, l'épouse de Monod, qui était juive. Monod était persuadé. dit qu'elle était athée. Bon, quand elle a attrapé un cancer et quand elle était à la fin de sa vie, Mono a voulu qu'elle soit soignée dans un hôpital où il y avait des religieuses. Et c'est elle qui l'avait demandé. Alors, dès le point de départ qu'elle est entrée dans cet hôpital des religieuses de Cluny, elle a dit tout de suite à son infirmière, « Est-ce que vous pourriez venir réciter des psaumes avec moi ?»« Je suis juive, j'aime tellement la prière des psaumes. » Et vous la récitez ? Demandait-elle. Elle dit oui. Alors très volontiers, je viendrai tous les jours réciter des psaumes avec vous. Nous prions le même Dieu. Alors ça a été fait. Puis progressivement, elle a dit, elle s'approchait de plus en plus, sa conversation devenait de plus en plus au point de vue religieux, au point de vue de la foi, au point de vue de Dieu. Elle a dit, est-ce que à ma mort, on pourrait dire une messe pour moi, parce que j'y crois, cette messe. Alors la religieuse a dit, mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, quand elle est morte, elle s'est dit, il faut quand même que je prévienne son époux. Je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, elle l'a prévenu. Alors, elle m'a dit, il était là, il y avait une chaise derrière lui. Heureusement, quand je lui ai dit, voilà ce que m'a demandé votre épouse avant de mourir, et je lui ai promis, alors je crois que c'est mon devoir de vous dire, quand on dira cette messe pour elle, vous ferez ce que vous voudrez, c'est sûr, vous êtes tout à fait libre, mais moi je voulais le dire. Alors, Mono s'est effondré. Elle a dit, comment j'ai vécu avec elle pendant toutes ces années. J'ai jamais pensé qu'elle pouvait croire en Dieu, qu'elle avait la foi. Et j'ai toujours cru, parce qu'elle se taisait, qu'elle était athée, qu'elle ne croyait pas en Dieu. Alors c'est là où elle a dit, mais c'est affolant, pourtant je l'aimais. Vous voyez, on voit que l'espèce d'athéisme positiviste, comme qu'il avait dans tous ses écrits, il le disait tout le temps, Mono, vont l'aveugler à la place de lui donner une intelligence du cœur. Il y avait comme un arrêt. Et c'est vrai, Mono était rude, dur. J'ai connu ses étudiants qui suivaient ses séminaires. Mono n'avait qu'un seul désir, c'était de choisir de bons étudiants pour qu'ils puissent chercher à avoir un prix Nobel. Et il serait le professeur de ces prix Nobel. C'était ça exactement. Et cet étudiant, quand il a entendu le cours de Mono au Collège de France, premier cours, et que Mono s'est mis à parler de la religion, il m'a dit, j'ai mis ma tête dans mes mains, je me suis dit, mais c'est effrayant, un homme si intelligent, de dire des choses, mais si bêtes, si peu intelligentes. Mais ça, c'est comme à la place, normalement, la recherche de la vérité vous rend plus pénétrant. Mais quand il y a de fait des aspects affectifs et qui font nier certaines choses. Il y a des secteurs sur lesquels notre intelligence se ferme. Et c'est toujours par là qu'on décèle des a priori. Je dis souvent, vous savez bien, que la philosophie détruit, enlève tous les a priori affectifs qu'on pourrait avoir. Nous avons tous des a priori affectifs, tous, surtout au plan politique, au plan de l'amitié, on en a tous. Je crois que vous êtes un saint pour ne plus en avoir du tout. Autrement, on doit toujours lutter. Alors, recherche de la vérité est arrêtée par ses a priori affectifs. Il y a tous des secteurs qu'on ne veut pas regarder. Alors que celui qui est intelligent regarde, doit tout regarder de la manière la plus objective qui soit. Vrai. Pensez à ça.
Vous dites que la mort est un scandale, mais certains objectent que la mort est un phénomène naturel et qu'il n'y a donc aucun scandale à cela. En quoi la mort est-elle scandale pour l'intelligence ?
Quand vous avez vu la mort d'un ami dans un accident bête, prenez l'accident de Camus. Il avait son billet pour retourner à Paris par le chemin de fer. Il rencontre un de ses amis qui retourne en auto et lui dit « Viens avec moi. » Alors là, tu vois, et puis on sait ce qui est arrivé. Son ami allait très très vite. Il a dérapé, parti là. Complètement en dehors du derrière, il est mort. Ouais. C'est un scandale dans le sens que quand on aime quelqu'un, on ne comprend pas que c'est parti comme ça. La mort d'un ami, la mort d'une mère, la mort d'une épouse, la mort de maître, tout ça, c'est un scandale. Moi. Je faisais une fois à Paris, une table ronde, sur le point de vue de la mort. Et j'avais dit justement que la mort était un scandale et une peine. Et quelqu'un de l'assistance a dit, oh non, pas du tout. La mort, c'est la libération. Ça dépend comment vous l'entendez. Que vous puissiez dire que la vie n'a plus aucun sens pour vous sur la terre. Et donc vous ne demandez qu'une seule chose, de vous libérer de cela, ou de se libérer d'une souffrance trop grande. Je comprends très bien, ça c'est autre chose. C'est pas la mort, c'est votre mort. Parce qu'il y a des morts qui vous blessent. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Donc distinguez au moins. Que pour vous, vous pouvez dire, je n'ai qu'un seul désir, c'est de partir dans l'au-delà. Parce que c'est assez douloureux, le pèlerinage que je suis ici. On comprend très bien ça. Mais ce n'est pas la mort. La mort est quand même une rupture de ce lien de l'âme et du corps. Et c'est dans ce sens-là qu'au plan spirituel, il y a un certain scandale.
N'y a-t-il vraiment pas d'expérience de la mort ? Que pensez-vous de tous ceux qui prétendent avoir vécu une expérience de l'au-delà ? Avez-vous jamais eu une expérience semblable ?
Si je l'avais, je vous le dirais. C'est très difficile. Voyez, on peut... ce que je peux dire en tant que théologien, que s'ils avaient vu Dieu... Il ne reviendrait pas. Ça oui. Sauf des cas où les théologiens parlent du Per modum transiuntis. Moïse a dit Dieu, Per modum transiuntis. C'est possible. Mais c'est très exceptionnel et c'est pas naturel. Oui. Donc, la mort ne nous donne, on n'a pas une expérience directe de la mort. On en a une indirecte. Assister à la mort de quelqu'un qu'on aime, on a un sens de la mort. Voilà, c'est pas une expérience. Et on voit combien la mort est une rupture par rapport à notre monde et notre conditionnement humain.
Pourriez-vous préciser les rapports entre l'âme, l'esprit et l'intelligence ?
L'âme et l'esprit, oui. On le reverra quand on parlera de l'âme. Alors je continue tout de suite. Encore. Je crois que c'est bon de voir quelques grands textes comme ça. Sophocle. Souvent, les artistes parlent mieux de la mort et de la vie dans l'espérance que les philosophes. Alors, le grand Sophocle dans Antigone, c'est un passage tellement beau. Donc, 5e siècle. Entre Créon et Antigone. Créon, ne savez-vous pas que si on devait chanter et geindre devant la mort, donner. Soit qu'elles doivent y mourir, soit y vivre ensevelies. Nous sommes innocents à l'égard de cette fille, mais elle ne remontera pas habiter chez les vivants. Laissons la mort à elle-même, on ne peut rien en dire. Elle ne remontera pas chez les vivants. Elle est enfermée. La mort, c'est une sorte de néant, c'est ça que ça veut dire en termes modernes, c'est exactement ce qu'on dira. C'est une néantisation. Antigone, ô tombe, ô chambre nuptiale, ô caveau, prison perpétuelle où je me rends auprès des miens, ces morts sans nombre que Perséphone a reçus chez les défunts, où je descends la dernière et combien la plus malheureuse, avant d'avoir achevé ma part de vie. En partant, je nourris du moins le ferme espoir d'arriver aimé de mon père et chéri de toi, mère, et cher à toi, ô mon frère, puisque j'ai de mes mains lavé, paré vos corps, vous ai versé les funéraires libations, et maintenant, moi qui ensevelis ton corps, Polysime, voilà ma récompense. Certes, pour les sages, j'ai eu raison de t'honorer. Jamais non, si j'avais eu des enfants, ni si mon mari mort eût pourri sur le sol. Je ne me serais donné ce mal contre le gré des citoyens. Au nom de quelle loi parler ainsi? Mon mari mort, je pourrais en avoir un autre, ou mon enfant en avoir d'autres. Mais ma mère et mon père, une fois dans l'Hadès, il ne me naîtra plus jamais de frère. Voilà pour quelle loi je n'ai de préférence. Voilà pour quelle loi je t'ai de préférence honoré. Ô mon frère, bien qu'à Créon ce semble une faute et une terrible audace, maintenant il m'a prise, il m'emmène sans que j'aie eu de mari ni de noce, sans que j'aie été épousée ni mère. C'est dans la solitude et le malheur que je m'en vais vivante à la fosse des morts. Quel droit divin ai-je transgressé? Mais à quoi bon regarder vers les dieux? Lequel appeler à mon secours, puisque ma piété me fait passer pour impie? Ah, si les dieux approuvent ce traitement, je le subirai, je reconnaîtrai ma faute. Mais si la faute vient des autres, puissent-ils ne pas subir plus de mal qu'à tort ils ne m'en font? Donc voyez les faces différentes de la mort et l'aspect religieux. Accomplir la loi de ensevelir un mort, alors que la loi l'interdit. C'est tout Antigone. Donc, en face de deux devoirs sacrés, mais un plus sacré que l'autre, le devoir familial est plus sacré que le mal de la loi. Et quand ça touche la mort, c'est le sacré du sacré. Alors, c'est ça. Cette chose très particulière et qui est très importante à noter, c'est de voir que la mort a toujours quelque chose de sacré. Donc si elle a quelque chose de sacré, voyez, ça veut dire que rien à voir avec l'aspect religieux. Pour moi, c'est le signe le plus net, ça. Il y a quelque chose qui crie et qui demeure et qui n'est plus et qu'on ne peut pas considérer comme complètement en dehors du point de vue sacré et du point de vue religieux. Alors, il y a encore ce passage très important. C'est dans l'apologie. Ce point de vue-là a une place très unique dans le patrimoine philosophique. Et au point de vue de la mort, Socrate donne à la mort une signification philosophique. Elle a une signification poétique, affective, ça c'est sûr.
Conformément à ce qui se dit, la mort est un départ,
dans un autre. Si le sentiment n'existe plus, si la mort est un de ces sommeils où l'on ne voit plus rien, même en songe, quel merveilleux avantage ce doit être que de mourir. Car enfin, si l'un de nous considérait à part une de ces nuits où il aurait dormi assez profondément pour ne rien voir, même en songe, s'il le comparait ensuite aux autres nuits et journées de sa vie, et s'il devait décider, réflexion faite, combien il a eu, en somme, de journées et de nuits meilleures que celle-là, j'imagine que tout homme, et je ne parle pas ici seulement des simples particuliers, le grand roi en personne les trouverait bien peu nombreuses relativement aux autres. Par conséquent, si la mort est un sommeil de cette espèce, j'estime que c'est grand profit, puisqu'alors toute la suite des temps nous apparaît comme une nuit unique. Néantisation, une nuit unique. D'un autre côté, si la mort est comme un départ de ce lieu pour un autre, s'il est vrai, comme on le dit, que là-bas sont réunis tous ceux qui sont morts, que pourrions-nous imaginer de meilleur? Je vous le demande, juge. Admettez. Arrivant chez Hadès, on sera débarrassé de ces gens qui prétendent être des juges. Ça, c'est bien dit pour les juges, tu vois. Et qu'on y trouvera les juges véritables, ceux qui, dit-on, rendent là-bas la justice. Minos, Rhadamante et Apé, Triptolème, avec ceux des demi-dieux qui ont été des justes quand ils vivaient, pensez-vous que le voyage n'en vaudrait pas la peine? Ou encore, si l'on y fait société avec Orphée, Musée, Hésiode et Homère, que ne donnerez-vous pas pour en jouir? Quant à moi, je voudrais mourir plusieurs fois si cela est vrai. Quel merveilleux passe-temps pour moi, particulièrement, que de causer là-bas avec Palamède, avec Ajax, fils de Télémaque, ou avec tel autre héros du temps passé qui a pu mourir par suite d'une sentence injuste. Comparer mon sort au leur ne serait pas pour moi sans douceur. Je pense et j'aimerais surtout à examiner ceux de là-bas tout à loisir, à les interroger comme je faisais ici pour découvrir qui d'entre eux est savant et qui croit l'être tout en ne l'étant pas. Que ne donnerais-je pas, juge, pour examiner aussi l'homme qui a conduit contre toi cette grande armée? Causer avec eux, vivre en leur société, examiner ce qu'ils sont, bonheur inexprimable, d'autant plus qu'à tout prendre, un des avantages de ceux de là-bas sont sur nous, c'est d'être désormais immortels. Tant qu'on est ici-bas, on doit mourir, donc on n'est pas immortel. Si on a fait ce passage, on devient immortel. C'est intéressant d'avoir cette conception. Et vous voyez que cette conception est purement imaginative, évidemment. personnage, qu'est-ce qu'on va retrouver de l'autre côté? Est-ce qu'on va retrouver horizontalement tous ceux qui sont passés par cette vie? Ou doit-on disparaître complètement? Et bon, on voit très bien, il y a tout un aspect rhétorique là-dedans. Cette confiance à l'égard de la mort, juge, vous devez l'éprouver comme moi. Si vous prenez conscience seulement de cette vérité, qu'il n'y a pas de mal possible pour l'homme, ni de bien, ni dans cette vie, ni au-delà, que les dieux ne sont pas indifférents à son sort. Tu n'es pas le fait du hasard. Loin de là, je tiens pour évident qu'il valait mieux pour moi mourir maintenant et être ainsi délivré de toute peine. C'est pourquoi mon avertissement intérieur ne m'a pas arrêté. Et de là vient aussi que je n'en veux pas du tout à ceux qui m'ont condamné. Ni à mes accusateurs. Il est vrai qu'ils avaient une autre pensée quand ils me condamnaient et m'accusaient. Ils croyaient bien me nuire, et en cela, ils sont blâmables. Je ne leur demande pourtant qu'une seule chose. Quand mes enfants auront grandi, Athéniens, punissez-les en les tourmentant comme je vous tourmentais. Pour peu qu'ils vous paraissent soucier de l'argent ou de n'importe quoi qu'ils n'ont pas, m'originez-les comme je vous m'origine. Reprochez-leur de négliger l'essentiel et de se croire un mérite dont ils sont dénués. Si vous faites cela, vous serez juste envers moi et envers mes fils. Et l'aspect moral, c'est Socrate, il ne faut pas l'oublier, et qui enveloppe jusqu'à la mort. La mort est-elle un dépassement du point de vue moral? L'immortalité est quelque chose qui ne peut pas se comprendre du côté purement moral. Il faut se poser ces questions pour Socrate. Parce que c'est très sérieux. Et c'est intéressant de voir si c'est vrai. Alors, voyez, Platon, je ne dis pas qu'il est hanté par la mort, mais Platon s'est intéressé énormément à la mort. Je ne crois pas que ça ait été fait de compter le nombre de fois que Platon parle de la mort. Et le nombre de fois qu'Aristote parle de la mort. C'est très curieux et très intéressant. C'est un petit signe, pas plus, c'est la parole. Mais chez Platon, ça revient constamment. Aristote en parle très peu. Très peu. C'est pas ça qui l'intéresse. Parce qu'Aristote a très fort le sens que si on est ici sur terre, c'est pour tendre vers notre bonheur. Et si c'est pour tendre vers notre bonheur, c'est cela qui fait que nos actes sont bons ou mauvais. Et c'est cela qui l'intéresse. Tandis que Platon a, lui, beaucoup plus le sens que nous devons, par nous-mêmes, tendre vers la mort pour dépasser l'épreuve de la vie. Alors, vous voyez tout de suite le raisonnement différent. L'un, c'est la finalité. Aristote est saisi par la finalité. Et Platon par le conditionnement. Alors, vous voyez tout de suite deux visions tout à fait différentes de la mort. L'aspect du conditionnement. La mort est une situation limite. C'est le cas de le dire. Et c'est le conditionnement le plus fort. Et c'est pour ça que tous ceux qui ne voient plus la finalité sont hantés de ce conditionnement. Parce que c'est, au point de vue conditionnement, c'est le maximum étalé. On ne peut pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas y revenir. Tandis que si vous êtes saisi par la finalité, la mort n'apparaît pas dans la finalité, dans la vraie finalité, la vérité ou l'amour. Et c'est, je crois, cela qui nous permet de comprendre le philosophe du conditionnement, Platon, Sartre, et le philosophe, au contraire, de la finalité, Aristote. Alors, il y aurait également dans le Phédon l'autre dialogue, et les deux grands dialogues où la mort apparaît. Ainsi donc, camarade, reprit Socrate, si là est la vérité, quel immense espoir pour celui qui en est rendu à ce point de ma route. Là-bas, si cela doit arriver quelque part, il possédera en suffisance ce qui fut de notre part le but d'un immense effort pendant la vie passée. Aussi, ce voyage, celui qui m'est présent prescrit, est-il accompagné, lui, d'un heureux espoir ? Et de même en est-il pour quiconque estime que sa pensée est prête et qu'il peut la dire purifiée. C'est absolument certain, dit Simmias. Mais une purification, reprend Socrate, mais une purification n'était-ce pas en fait justement ce que dit l'antique tradition ? Mettre le plus possible l'âme à part du corps, l'habituer à se ramener, à se ramasser sur elle-même, en partant de chacun des points du corps, à vivre autant qu'elle peut, dans les circonstances actuelles, aussi bien que dans celles qui suivront, isolée et par elle-même, entièrement détachée du corps, comme si elle l'était de ses liens. Mais la situation de la méditation, du zen, il y a quelque chose d'analogue. On doit réfléchir sur l'âme séparée du corps. Ça vous arrive peut-être de temps en temps. Si mon âme était libérée de mon corps, où est-ce que je serais ? Si mon âme était séparée du corps, qu'est-ce qu'il y aurait ? Qu'est-ce qu'elle est ? Oui. L'abstraction, pour Platon, est une sorte de purification. On se sépare d'un état imparfait pour vivre un état parfait. C'est ça la purification. Mais ce n'est pas du tout une abstraction. La purification est une sorte d'abstraction, mais affective. Pas intellectuelle du tout. Et alors, on voit bien, là, dans le Phédon, c'est tout à fait différent que l'apologie de Socrate. On essaie de réfléchir sur mon âme séparée de mon corps. Mais qu'est-ce qu'elle va... Qu'est-ce que mon âme va pouvoir réaliser si elle est séparée de mon corps ? Qu'est-ce que mon âme va être ? Mais une purification, n'était-ce pas en fait justement ce que dit l'antique tradition ? Mettre le plus possible à l'âme, mettre le plus possible isolée et par elle-même entièrement détachée du corps, comme si elle l'était de ses liens, absolument certains, fit-il. N'est-ce pas vrai que le sens précis du mot « mort », c'est qu'une âme est détachée et mise à part d'un corps? Qu'est-ce que c'est que mort? L'âme détachée du corps. Donc on définit la mort. On définit, vous voyez, la mort par une rupture. Une rupture d'un lien. N'est-ce pas vrai que le sens précis du mot mort, c'est qu'une âme est détachée et mise à part du corps, d'un corps? Tout à fait vrai, oui. Et que ce détachement-là, comme nous disons, ceux qui l'ont le plus toujours et qui seuls l'ont à cœur, ce sont ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosopher. L'objet propre de la philosophie, c'est s'habituer à sortir hors de son corps. L'objet propre de l'exercice des philosophes, et même de détacher l'âme et de la mettre à part du corps. N'est-ce pas vrai? Manifestement. Ne serait-ce donc pas, comme je le disais en commençant, une chose ridicule de la part d'un homme qui se serait préparé, sa vie durant, à rapprocher le plus parfaitement possible sa façon de vivre de l'état où l'on est quand on est mort, de s'irriter ensuite contre l'événement lorsqu'il se présente à nous? Si vous êtes bien philosophe, si vous êtes bien habitué à contempler votre âme séparée du corps, ne le faites pas trop, hein. Parce qu'alors, je crois que ça pourrait être très dangereux, n'est-ce pas? Alors, quand la mort arrive, on dit enfin, j'attendais. Donc, il n'y a plus aucune irritation. On est très heureux, parce qu'on attendait cet événement comme l'événement majeur de notre vie. Mais c'est une manière de considérer que la mort n'est plus un mal, mais le bien suprême pour l'homme. Pour Platon, c'est très net. Pour Platon, c'est même la très grosse différence entre Platon et Aristote, entre Platon et le chrétien. C'est très curieux, vous voyez, comme la mort est un miroir merveilleux du sentiment le plus profond que nous pouvons avoir en nous. C'est à l'égard de la mort que vous voyez tout de suite ce qu'est Platon. À l'égard de la mort, vous voyez tout de suite le réalisme aristotélicien. À l'égard de la mort, vous voyez tout de suite ce qu'est le chrétien. Parce que la mort, ça ne transige pas. Vous ne pouvez pas relativiser la mort. Sauf si vous êtes chrétien. Et au plan philosophique, non. Vous ne pouvez pas. C'est donc un absolu qu'on n'a pas expérimenté, mais qu'on a répercuté dans son cœur, si c'est la mort d'un ami, si c'est la mort de quelqu'un qu'on aime. Ne serait-ce donc pas, comme je le disais en commençant, une chose ridicule de la part d'un homme qui se serait préparé sa vie durant à rapprocher le plus possible sa façon de vivre de l'état où l'on est quand on est mort, de s'irriter ensuite contre l'événement lorsqu'il se présente à lui? c'est l'obstacle majeur de votre vie. La peur qu'on a de mourir. Et donc, la philosophie devient le remède numéro un de toutes les angoisses. Je crois que c'est très important, ça, pour voir la séduction très profonde de Platon. Ainsi donc, c'est bien en réalité, dit-il, que ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosopher, s'exercent à mourir, et que l'idée d'être mort et pour eux, moins que pour personne au monde, un objet d'effroi. Voici de quoi en juger. S'ils se sont en effet de toute façon brouillés avec leur corps, s'ils désirent d'autre part que leur âme soit en elle-même et par elle-même, et que pourtant la réalisation de cela effrayés et les irrités, ne serait-il pas le combat de la déraison, oui, de ne pas s'en aller avec joie vers ce lieu où, une fois rendu, ce dont pourtant ce dont étaient amoureux. Ils ont espoir de le trouver, la pensée qu'était leur amour, et aussi ce avec quoi ils s'étaient brouillés, espoir d'être débarrassés de sa compagnie. Quoi ? Des amours humaines, mignons, chacun de ses composants, retournant à son origine, un corps détruit. Détruit l'autre, le change en un autre et le fait périr, surtout lorsque l'âme qui les unit d'amitié n'est pas présente en leur masse. Même si l'on prend isolément chacun de ces choses qui naît, elle n'est pas une, car elle admet la décomposition en forme et en matière, dont les corps simples eux-mêmes sont nécessairement composés. De plus en plus que le corps, ils sont une grande. Deux siècles après Jésus-Christ. Avant, il y a la pensée d'Aristote, mais il y a très peu de choses sur Aristote. Et alors, on comprend, deux siècles après Jésus-Christ, Plotin, disciple de Platon, le divin Platon, fait une sorte de philosophie en donnant une herméneutique de Platon. Parce que pour lui, tout ce qui est de Platon, travaille sur des textes sacrés qui sont ceux de Platon. Et c'est très intéressant du reste de voir qu'à l'intérieur même de l'histoire de la philosophie, on trouve une sorte de méthode de commentateur, de méthode philosophique s'appuyant sur un texte et commentant le texte et considérant ce texte comme sacré. Ça, c'est Plotin. Et Plotin a toute une Énéade. Vous savez que Plotin n'a rien écrit de sa vie, comme Socrate. N'a rien écrit. Mais un de ses disciples a écrit ce qu'il donnait comme cours, ce qu'on appelle les Énéades. Et il y a cette Énéade très intéressante. On y reviendra peut-être après sur l'immortalité de l'âme. On aurait pu tout centrer là-dessus. Ça aurait été très intéressant. Parce que Plotin est toujours très intéressant, très spirituel. Alors, ce soir, on essaiera de prendre quelques aspects peut-être de Plotin si on a le temps encore. Surtout, penser sur la mort et l'immortalité de Ludwig Feuerbach. Feuerbach a quand même une grosse influence négative par rapport au problème de Dieu. Puisqu'il affirme que Dieu n'existe pas. Et par rapport, par le fait même, à l'âme.